Assises, correctionnelles, tribunal administratif, une page de justice pour ouvrir ce journal dans un instant. Deux approches et des tensions. Les représentants des deux listes concurrentes pour le renouvellement du bureau de la CCI étaient en débat ce midi dans les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Extrait à retrouver dans ce journal. Après le chanvre, c'est la luzerne qui est en test sur le territoire. Une expérimentation menée à Pointe-Boute semble prometteuse. Et puis 30 jeunes Calédoniens partent prochainement pour la cueillette des fruits en Nouvelle-Zélande. Ils ont été sélectionnés grâce au programme Pirogue NC. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal pour tout savoir de l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique. Le traitement judiciaire des émeutes et leurs conséquences. Le tribunal administratif a d'abord été saisi de plusieurs recours de dirigeants et de militants de la CCAT. Ils contestent l'assignation à résidence qui leur a été imposée après le déclenchement des émeutes du 13 mai. Le rapporteur public a conclu ce matin Elisabeth Noir au rejet de leur requête.
Des assignations à résidence avec obligation de se présenter au service de police qui avaient été prises dans le cadre de l'état d'urgence déclarée en Nouvelle-Calédonie du 15 au 28 mai. Cette mesure permet en effet d'assigner à résidence toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour l'ordre et la sécurité publique. Cette personne avait formé des recours contre les arrêtés pris à leur encontre. Il s'agit de Christian Théin, Brenda Wanabo, Guillaume Vama, Fabrice Viraille, Marie-Pierre Goyetch, Florenda Nirikani et Thierry Rosam. Ils contestaient les mesures d'assignation qualifiées de disproportionnées en estimant qu'elles ne sont pas fondées sur l'examen précis de leur situation personnelle, mais sur des éléments généraux qui ne permettent pas d'identifier des comportements constituant une menace pour la sécurité et l'ordre public. Dans ses conclusions ce matin, le rapporteur public a fait état de notes de service des renseignements concernant chacun des requérants pour démontrer que ces assignations ont bien été décidées en raison du comportement ou des actes à la suite d'une évaluation individuelle et circonstanciée du risque. Il estime que compte tenu du risque de trouble à l'ordre public, les mesures ordonnées par le ministre de l'Intérieur sont adaptées, nécessaires et proportionnées à leur finalité. Le rapporteur public ajoute que la mesure d'interdiction de fréquenter certaines personnes nommément désignées avait pour objectif d'empêcher l'orchestration de troubles par les membres de la CCAT et il conclut donc au rejet de ces requêtes. Le jugement devrait être rendu d'ici une quinzaine de jours.
Direction maintenant le tribunal correctionnel. Au début des émeutes, le 14 mai dernier, 5 individus s'étaient rendus coupables de vol à la station Total Riviera de Nouméa. Ils étaient donc jugés ce matin, Léana Colombo.
C'est au plus fort des émeutes du mois de mai que 5 jeunes hommes, âgés d'une vingtaine d'années, sont entrés dans la station-service située près du rond-point Bellevie. Un homme présent devant la station nous a dit de nous servir et que tout était gratuit, déclare l'un des accusés. Les 5 individus qui ne se connaissaient pas sont alors entrés et ont pris de la nourriture, des boissons et des recharges de cigarettes électroniques. À peine sont-ils ressortis avec leur butin qu'ils ont été arrêtés par la police avec un 6e accusé, mineur au moment des faits. Les 5 jeunes, presque tous connus des services de police, ont reconnu les faits et nié quelconque dégradation des lieux. Nous avons affaire à des opportunistes dans une période mouvementée plutôt qu'à des délinquants venus saccager et mettre le feu. Il faut toutefois une sanction car si nous en sommes arrivés là, c'est à cause de citoyens qui se sont laissés aller à ce genre de comportement, a souligné la procureure générale de la République, Fabienne Coupry. Le tribunal correctionnel a donc jugé coupable de vol les 5 individus et a suivi les réquisitions de la procureure. 2 des accusés ont été condamnés à 90 heures de travail d'intérêt général, 2 autres à une peine de jour amende de 3 mois d'un montant de 72 000 et 63 000 francs. Le dernier individu ayant un casier judiciaire lourd écope d'une peine de 3 mois d'emprisonnement sans aménagement de peine et une amende de 50 000 francs. Tous devront payer la somme totale de 100 000 francs à se partager en dédommagement pour le préjudice porté à la station-service.
Et puis toujours justice encore, pardon, avec la cour d'assises qui juge depuis ce matin 2 hommes qui comparaissent libres. Ils sont jugés pour une affaire de coup mortel lors d'une fête sur fond d'alcoolisation massive, histoire tristement banale. Le 20 juin 2021, jour de la fête des pères, toute la famille est réunie sur la plage de Magenta. La fête est donc très arrosée. La victime, qui présentait un taux de 3 grammes d'alcool par litre de sang, aurait insulté sa mère qui lui demandait de rentrer. Excédée par ses injures, la mère aurait demandé à l'un de ses fils de le régler. S'ensuit un échange de coups auquel a participé l'un des cousins. La victime décédera des suites de ses blessures. Les débats sur cette affaire doivent durer 2 jours. Le haut-commissaire Louis Lefranc sera notre invité du matin demain à 7h30. Une intervention pour faire le point sur l'ordre public et les effectifs des forces de l'ordre. Interview du haut-commissaire à suivre donc demain matin à partir de 7h30 sur Radio Rythme Bleu. Et puis c'est le président de l'UPM, Victor Tutugoro, qui sera demain midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Il sera interrogé sur le bilan du congrès de son parti, mais aussi sur la situation du FLNKS et son avenir, et sur la reprise des discussions sur l'avenir institutionnel. Victor Tutugoro, invité de Transparence, est donc à suivre demain à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. L'actualité politique de ces prochains jours sera également dominée par la réunion du 55e congrès de l'Union calédonienne et tous les regards, Elisabeth, sont braqués vers la tribu de Mia à Canala où se tient ce rendez-vous politique.
Un congrès sous haute tension parce que le calme n'est pas vraiment revenu dans cette commune de la Côte Est, mais aussi parce que ce congrès se réunit 6 mois après le déclenchement des émeutes par la CCAT qui est, on le sait, une émanation de l'UC. Comme chaque année, les délégués devront procéder au renouvellement du bureau et du président de l'Union calédonienne. Daniel Goa, qui préside le parti depuis 2012, a exprimé son souhait de ne pas solliciter un nouveau mandat. Mais on sait que les candidatures sont présentées par les comités locaux et il pourrait donc conserver son siège si les militants en décident. D'autres noms circulent toutefois pour prendre sa succession à la présidence de l'Union calédonienne. On parle notamment d'Emmanuel Chibaou, de Pierre-Chaël Tutugoro, de Gilbert Thuénon et d'autres. Il y a beaucoup de personnalités dont les noms sont actuellement proposés. La cérémonie d'ouverture a donc lieu demain à partir de 13h avec le discours du président Daniel Goa. Les travaux se dérouleront ensuite à huis clos jusqu'à dimanche et c'est ce dernier jour que les délégués procéderont à l'élection du bureau et du président de l'Union calédonienne.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est lors de votre rendez-vous SMS avec notre question du jour. Dans la perspective des discussions sur l'avenir, êtes-vous favorable à l'union des partisans de la France au sein d'un seul parti qui ressemblerait à ce qu'était le RPCR? Si vous y êtes favorable, vous tapez 1. Si vous n'y êtes pas favorable, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 91% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS regrettent que le président du Sénat ait parlé de souveraineté partagée lors de son déplacement en Nouvelle-Calédonie. Ils sont 9% à ne pas le regretter. 11h52, une première pause dans ce journal avant de voir dans un instant le reste de l'actualité en Calédonie.
Vous avez besoin de conseils pour faire travailler votre épargne, payer moins d'impôts, préparer votre retraite? Nous sommes là pour vous guider. Avec Caplif, développez votre patrimoine pour construire votre avenir. Contactez Caplif au 28 30 00. RIAS 170 052. ORIAS 13 103. Événement littéraire à l'Amirauté, le samedi 23 novembre de 9h à 16h. Le premier SAO, Salon des auteurs en off. Débat histoire à 10h, débat média à 14h. Conteuse, atelier d'écriture, exposition de Stéphane Foucault, une vingtaine d'auteurs présents. Le samedi 23 novembre à l'Amirauté. Viens rencontrer un auteur et croquer un bon livre. Venez nombreux au premier SAO.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite info soir, Jean-François Baudin.
Les représentants des deux listes qui sont en concurrence pour le renouvellement des élus de la Chambre de commerce et d'industrie ont débattu ce midi dans les Jeudis de l'économie. Sur le plateau, Alexandre Rodriguez et Marie-Amélie Molia pour la liste Alliance pour la relance et deux élus sortants de la liste Une Chambre pour tous, ensemble pour réformer et reconstruire, David Guyenne et Stéphane Yotto. Deux listes qui ont une approche différente, notamment sur la gouvernance. La liste Alliance pour la relance souhaite une présidence tournante à la tête de la CCI pour que chaque collège soit bien représenté, a expliqué Marie-Amélie Molia.
Encore une fois, une présidente tournante pour nous, ça ne remet pas en question la continuité des actions. On a un programme qui est construit très clair, on s'est réunis tous ensemble pour le construire. Donc il y a vraiment un cap, on sait où on veut aller, comment, on s'est fixé des délais, si jamais nous étions élus, bien évidemment. Et donc, comme je dis, c'est important cette présidente tournante parce que chaque secteur doit être représenté et je rejoins pour le coup Stéphane qui dit effectivement le président ou la présidente de la CCI est amenée à tenir les rencontres en haut lieu et c'est important justement que les différentes voix puissent être entendues.
La liste Une Chambre pour tous, ensemble pour réformer et reconstruire estime au contraire que la présidence doit être incarnée au nom de tous par une seule personne clairement identifiée. Et ce n'est pas la seule différence d'approche entre les deux listes concurrentes. Elles n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la constitution d'une liste commune pour des approches différentes. Écoutez cet échange entre David Guyenne, Alexandre Rodriguez et Stéphane Yotto.
C'est vrai que on n'a pas pu trouver un terrain d'accord parce que philosophiquement, c'est vrai qu'on a eu de vraies différences. choses. La première, c'est que les syndicats professionnels qui étaient portés par la liste d'en face, pour nous, ne peuvent pas être au cœur de la chambre consulaire parce que elles défendent des intérêts particuliers, elles défendent des intérêts corporatistes. Or, la chambre doit réunir l'intérêt général et réunir le plus grand nombre. D'autre part, 95% des entreprises ne font pas partie de syndicats professionnels. Donc, pour nous, autant nous avons démontré que nous travaillons avec les syndicats professionnels, que ce soit la FIN, que ce soit le SIDNC, et on l'a fait pendant 5 ans, que ce soit d'autres syndicats ou même des clusters, hein, il n'y a pas que les syndicats professionnels dans l'écosystème économique, autant notre volonté d'avoir une équipe unie, unie sur des valeurs, unie sur un projet, unie sur des têtes de liste, a été pour nous l'élément vraiment différenciant qui n'a pas permis à ce qu'on arrive à un accord.
Je ne peux pas permettre David Guen d'indiquer qu'il travaille avec l'ensemble des syndicats professionnels, puisque si aujourd'hui on constitue une liste avec 33 chefs d'entreprise, 13 syndicats professionnels et des centaines d'adhérents et de partisans qui nous soutiennent, c'est bien parce qu'aujourd'hui, on ne se sent pas écouté et entendu au sein de la Chambre de commerce et d'industrie.
Stéphane Yotto.
Nous, on pense que la CCI, c'est la démocratie des entreprises. Ça n'est pas la représentation des fédérations. David l'a dit, 80 à 95% des entreprises ne sont pas dans les fédérations. Nous souhaitons représenter le maximum d'entreprises. Il y a des fédérations qui n'ont pas suivi la liste d'en face. Donc aujourd'hui, revendiquer l'intégralité des fédérations, ça n'est pas le cas. On a vraiment essayé. On arrivait vraiment avec une différence qui a fait que, in fine, on s'est serré la main et puis on a dit, bon, bah, il y aura deux listes.
L'intégralité de ce débat est disponible sur notre site internet. Le vote pour les élections à la CCI est ouvert depuis plusieurs jours et jusqu'au 25 novembre pour les adhérents qui font le choix de voter par correspondance ou par voie numérique. Le vote physique aura lieu, lui, le 5 décembre dans l'un des 3 bureaux de vote installés pour l'occasion à la mairie de Nouméa, à la mairie de Conné et à la mairie de Lifou. Les maires calédoniens qui participent au 106e congrès des maires à Paris sont soulagés de l'annonce de l'aide financière que l'État va apporter à la Nouvelle-Calédonie. Une partie de cette manne financière va être dirigée vers les communes, souligne Pascal Vittori, le maire de Boulou-Paris et président de l'Association française des maires que vous avez pu entendre dans nos précédentes éditions. Le congrès des maires est aussi l'occasion de nombreuses tables rondes sur des thèmes très divers, comme la gestion de l'eau, le droit des élus ou le changement climatique. Hier, le maire de Coumac, Wilfried Weiss, a participé à un débat sur le recul du trait de côte, un phénomène qui affecte aujourd'hui 22% du littoral français. Wilfried Weiss a convaincu le CEREMA, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, de reprendre la cartographie complète en 3 dimensions des côtes calédoniennes, un projet abandonné il y a quelques années.
Le recul du trait de côte, quand même, c'était une réelle préoccupation. En 2011, il y avait déjà eu une mobilisation des élus à ce sujet. Et normalement, en 2021, il devait y avoir une opération pour faire ce qu'on appelle un référentiel du littoral de Nouvelle-Calédonie. On a des communes qui sont touchées, des communes de la côte est et aussi des communes des îles, des communes du sud. Je pense à Thiot, Yaté, etc. Et ce programme a été abandonné. Donc aujourd'hui, dans la mesure où on n'a pas ces relevés du littoral, le CEREMA que j'avais contacté moi depuis 2021-2022, je suis revenu les voir et encore cette semaine, eux, ils sont prêts à nous faire le travail ainsi que les préconisations qui vont avec pour pouvoir mettre en œuvre les financements, etc.
Des propos recueillis par notre correspondant à Paris, Xavier Robert. Le congrès des maires s'achèvera la nuit prochaine pour nous avec le discours de clôture du Premier ministre Michel Barnier. Le domaine agricole continue d'innover. Depuis plus d'un an maintenant, la culture de la luzerne est expérimentée sur le territoire. Cette légumineuse est utilisée dans l'agriculture, mais aussi dans l'élevage. Et les résultats des tests étaient présentés aujourd'hui à Pointe-Bout, Charlotte Coulson.
C'est une plante assez méconnue et pourtant aux multiples bénéfices. Elle améliore la qualité du sol, elle est très riche en protéines et en fibres. Elle est donc parfaite pour l'alimentation des bovins. Et pourtant, ce n'est qu'en juin 2023 que sa culture est expérimentée en Nouvelle-Calédonie. Pour la première fois depuis 40 ans, c'est Roger Avril, agriculteur et éleveur de bovins à Pointe-Bout, qui a sollicité l'aide de la province Nord, ainsi que de la Technopole de Nouvelle-Calédonie et de l'Agence rurale pour mettre en place une parcelle de luzerne sur ses champs.
Moi,
Moi, je faisais du maïs. Ils avaient des problèmes de mauvaises herbes qu'on peut gérer chimiquement. Mais ça me gênait un peu que ce soit un peu trop répétitif. Tout seul, j'ai décidé de faire un peu des rotations de culture plutôt que de faire de la monoculture de maïs sur ma parcelle. J'ai décidé d'intégrer dans ma rotation de la luzerne. Elle a beaucoup, beaucoup d'intérêt, cette plante, c'est que c'est une légumineuse, c'est très riche au niveau des protéines et puis de l'énergie pour le bétail. Donc, c'est vraiment un croix de haute qualité. Ça améliore le sol, ça a une vitesse de croissance qui est phénoménale, c'est impressionnant. Et puis, c'est maintenant que ça devient intéressant à suivre. C'est pour ça que la journée technique, ben, c'est bien, parce qu'il y a plein de gens qui sont là. C'est aussi pour partager avec le pays, quoi. Il y a beaucoup d'institutions, mais il y a pas mal d'agriculteurs. Il y a même des producteurs du Sud qui sont là. Il y a des techniciens du Sud qui sont là. Enfin, c'est intéressant. Ouais, il y a pas mal de personnes.
Et mobilisée sur le territoire, la Technopole de Nouvelle-Calédonie a pris de l'avance sur les expérimentations. Elle cultive ses propres parcelles en utilisant d'autres techniques que celles de Roger Avril. Cette journée était donc l'occasion pour Valentine Méré, la responsable du Centre de recherche et d'expérimentation agronomique à la Technopole, de rendre compte de leurs résultats. Et là encore, ils sont plutôt satisfaisants.
L'avenir aujourd'hui de l'hiverne en Calédonie, il est varié. Il peut être en tête de rotation de culture pour de l'oignon, de la carottes, des cultures qui sont sensibles aux mauvaises herbes. Il peut aussi être implanté directement dans le maïs. Donc ça, c'est déjà en test au niveau de la Décale Technopole. Il y a des résultats très positifs. On a un maïs qui est de bonne qualité, où il y a beaucoup moins de ravageurs, pas de problème d'adventice forcément. Et en plus, un coût de charge de production qui est bien diminué. Ça te permet du coup de ne pas avoir à travailler ton sol, de ne pas avoir à désherber. Et la surprise a été de voir qu'on avait moins de problèmes de chenilles dans le maïs, qui est un des plus gros soucis des agriculteurs aujourd'hui sur le maïs.
Des tests qui s'inscrivent dans une démarche d'innovation du secteur agricole en Nouvelle-Calédonie. Le mois dernier, c'est la culture du chanvre qui rendait ses premiers résultats positifs. Et en ce qui concerne la luzerne, les expérimentations continuent jusqu'en juin 2025.
Après octobre rose pour les femmes, place au novembre bleu pour les messieurs, car les cancers s'accordent aussi aux masculins. Mais reste assez méconnu. Pourtant, chaque année, près de 50 000 nouveaux cas de cancer de la prostate sont détectés en France. En Nouvelle-Calédonie, le constat s'aggrave, surtout depuis les émeutes, alors que le manque de personnel soignant se fait ressentir. Aujourd'hui, le docteur Nicolas Merzeau, chirurgien urologue, a alerté lors d'une conférence organisée par la province sud.
En Nouvelle-Calédonie, tous les deux jours, il y a un nouveau diagnostic de cancer de la prostate. Les émeutes ont eu un effet sur la population des médecins traitants et les médecins traitants sont la pierre angulaire de la médecine, de la santé en Nouvelle-Calédonie et c'était eux qui initialement faisaient les dépistages. Et c'est vrai qu'on a remarqué un retard de prise en charge de 3 à 4 mois. Ça peut jouer sur le traitement, sur la qualité des traitements. Et on a vu qu'il y a certaines zones de la Nouvelle-Calédonie, comme la province Nord et la province des Îles, qui ont des patients qui ont des cancers de la prostate qui sont plus agressifs et donc qui seront plus difficiles à traiter.
Cette maladie touche donc de près les Calédoniens et pour agir, il faut se faire dépister assez régulièrement à partir d'un certain âge, explique le docteur Nicolas Merzeau.
Le cancer de la prostate est une maladie qui peut être dépistée et il se dépiste très bien, il se diagnostique très bien et il se traite de manière efficace. Et le meilleur moyen, c'est d'aller voir son médecin traitant pour demander un dépistage du cancer de la prostate. Pour faire le test du dépistage du cancer de la prostate, c'est une prise de sang, c'est très simple, c'est ce qu'on appelle un PSA. Et tout homme, à partir de 50 ans, devrait connaître son taux de PSA.
Et justement, il y a des facteurs de risque, l'âge notamment ?
Oui, l'âge, donc l'homme à partir de 50 ans jusqu'à 75 ans. Et puis, s'il y a des antécédents familiaux, comme le père, le frère qui a eu un cancer de la prostate, eh ben, on est plus à risque de faire un cancer. Et donc, il faut être plus vigilant et se faire diagnostiquer le plus rapidement possible.
Novembre bleu vise donc à sensibiliser la population sur les cancers masculins. Cette conférence organisée par la province sud s'est faite en lien avec l'agence sanitaire et sociale et la Ligue contre le cancer. Et puis toujours au chapitre santé, la présentation cet après-midi d'un nouveau guide pour les médecins, en tout cas surtout pour les professionnels de santé. C'est une application qui s'appelle Antibioguide NC, c'est son nom. Elle est destinée à accompagner les professionnels de santé dans un usage approprié des antibiotiques. Cet outil numérique à télécharger sur le site antibioguide.gouv.nc regroupe des recommandations actualisées et adaptées au contexte local pour guider les prescriptions en Calédonie. Il est donc destiné en priorité aux professionnels de santé. 18h04, une nouvelle pause avant de voir le reste d'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique.
Des problèmes de termites, de bois, de sol ou d'insectes rampants? Pensez Flic Pest Control. Depuis 40 ans présent sur le territoire, Flic Pest Control, c'est le numéro 1 de la désinsectisation de la lutte anti-termites. Traitement par pulvérisation, perçage et injection, épandage ou pose de piège. Flic Pest Control, 75 rue Arnold Delay à Wemo. Un numéro 28 94 20.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux. RRB, première radio d'information.
La suite du journal, Jean-François Baudin.
Oui, avec la présentation cet après-midi des bénéficiaires du dispositif Pirogue NC 2025. Pirogue pour programme d'insertion et d'interculturalité dans la région océanienne du gouvernement. Ce programme a été lancé en 2022 en collaboration avec le consulat de Nouvelle-Zélande et doit permettre aux jeunes Calédoniens d'acquérir une expérience professionnelle à l'international via un contrat de travail temporaire dans le cadre du visa vacances-travail. C'est ce qu'explique Michael Forest, membre du gouvernement en charge notamment de la jeunesse.
C'est la convention que j'avais signée justement en 2022 avec Commonwealth 45 South, donc c'est une ferme qui accueille environ 5000 jeunes du monde entier. Ils vont retrouver des Vanuatais, des Belges, des Argentins, des Espagnols, des Français. Et pendant 4 mois, ils sont positionnés sur la récolte des agrumes. Donc après, il y a d'autres opportunités derrière de pouvoir intégrer des universités. Il y a aussi des opportunités pour intégrer d'autres possibilités professionnelles qui existent en Nouvelle-Zélande.
Et pour Lorraine Anderson, consul général de Nouvelle-Zélande par intérim en Calédonie, il est important pour son pays de tisser des liens avec le territoire.
Je pense que pour la Nouvelle-Zélande, quand on est voisin de la Nouvelle-Calédonie, pour nous c'est très important de pouvoir tisser des liens avec le peuple calédonien. C'est aussi un travail qui aide les agriculteurs en Nouvelle-Zélande aussi, mais surtout je pense que c'est pour établir des liens entre nos peuples.
Les 30 jeunes calédoniens de 21 à 30 ans ont donc été sélectionnés parmi une centaine d'inscrits. Ils rejoindront donc une ferme à Cromwell pour la cueillette de cerises jusqu'en avril 2025.
On a eu 2 entretiens en fait. On a été sélectionnés pour avoir une formation. Et de là, on a appris de tout sur le projet en fait. De comment on allait vivre, comment il fallait gérer son argent et ou autre. Personnellement, l'anglais, pour moi, ça va. La langue maori, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'apprendre et surtout appuyer dessus. Alors là-bas, on va travailler en tant que saisonnier au sein de la ferme 45 South. On devra accueillir des fruits ou des légumes.
C'est pour l'expérience et puis acquérir un niveau de langue avec un niveau d'anglais bon quand même. On va acquérir des nouvelles expériences.
C'était une opportunité de partir en Nouvelle-Zélande. En fait, c'est grâce à mes parents que j'ai pu m'inscrire, que j'ai pu découvrir ce programme. Et tout de suite, j'ai sauté sur l'occasion. Je n'ai pas attendu dès que j'ai vu, tout de suite inscrite. Et voilà que j'apprends quoi quelques mois plus tard que j'ai été prise. J'étais trop contente. Je compte bien profiter aussi pour visiter le pays. C'est vraiment une expérience que je ne peux pas manquer. Donc, je pense bien profiter.
Et les premiers jeunes retenus pour ce programme Pirogue s'envoleront dimanche pour la Nouvelle-Zélande. Restons dans la région pour terminer ce journal, cette fois-ci en Australie, avec des actes antisémites dans la banlieue de Sydney. Ils ont eu lieu la nuit dernière pour nous et une enquête a été ouverte. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Ces incidents ont eu pour cadre Woollahra, un important quartier juif de la banlieue est de Sydney. Une voiture y a été détruite après avoir été incendiée et plusieurs autres ont été taguées et couvertes de slogans antisémites particulièrement insultants. La police criminelle a bouclé le quartier et lancé une enquête afin de retrouver le ou les auteurs de ces exactions. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 18h09, on termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Alors le temps prévu cette nuit et demain matin avec vous Nicolas.
Alors cette nuit sur l'ouest et le nord, le ciel sera bien étoilé. Ailleurs, les éclaircies et passages nuageux alterneront avec quelques gouttes sur l'est, la pointe sud, l'île des Pins et le sud des Loyautés. Le vent d'est-sud-est se maintiendra entre 15 et 20 nœuds. Il faiblira en fin de nuit sur le nord-ouest entre 5 et 10 nœuds. Les températures minimales seront en hausse avec 20 à 24 degrés. Localement 17 degrés, ce sera sur l'ouest. Demain matin, le ciel sera parfois voilé par des nuages élevés. dégrader. Sur l'est et au loyauté, des nuages bas circuleront et déposeront quelques gouttes. Ailleurs, le temps sera sec. L'alizée de sud-est soufflera entre 15 et 20 nœuds. Sur le sud-ouest et la pointe nord, il dépassera localement les 20 nœuds avec des rafales jusqu'à 35 nœuds. Jean-François.
Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal.